le rayon BD, les violences policières en bande dessinée. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Rayon BD, l'émission de bande dessinée de France Culture. Nous parlons ici de toute la bande dessinée, de tous les styles, de tous les genres, de tous les formats. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un usage de la bande dessinée, à l'une des fonctions que ce médium peut remplir, celle de rendre compte des réalités de notre monde contemporain, celle de décrire, expliquer, analyser, dénoncer parfois ce qui se passe ici et maintenant dans notre société. Comment la bande dessinée peut-elle traduire le réel ? Quelles possibilités offre-t-elle que d'autres formes d'expression ne permettent pas ? Comment écrit-on un reportage ou une enquête de sciences sociales en bande dessinée ? Nous allons tenter de répondre à ces questions aujourd'hui en nous centrant sur un sujet d'actualité particulièrement sensible, celui des violences policières. Et nous allons le faire avec Didier Fassin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin, anthropologue, sociologue, professeur à Princeton, à l'EHESS, titulaire de la chaire annuelle de santé publique au Collège de France. Vous êtes auteur de nombreux livres sur la police, la justice, la prison. Et pour la première fois, vous publiez cette semaine une bande dessinée, La force de l'ordre. C'était le titre d'un de vos ouvrages paru en 2011. Et cet ouvrage, cette enquête sociologique, anthropologique, vous l'avez recréé, dites-vous, plutôt qu'adapté, avec l'aide de Frédéric Debomy au scénario et de Jacques Rénal au dessin. Et en face de vous, Amélie Mouget, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la rédactrice en chef de La Revue Dessinée, ce trimestriel d'informations, d'enquêtes et de reportages tout en bande dessinée, qui est devenu depuis son lancement en 2013 un titre de référence parmi ce qu'on appelle les MOOC, au croisement du magazine et du livre. La Revue Dessinée s'est associée à Mediapart pour publier un hors-série, disponible depuis le début du mois d'octobre en librairie, un hors-série intitulé « Ne parlez pas de violences policières », une citation d'Emmanuel Macron en avril 2019, en plein mouvement des Gilets jaunes. Et on va commencer avec Emmanuel Macron, le président de la République, était au début de l'année au festival d'Angoulême, et il avait posé avec un t-shirt que lui avait offert Jules, un t-shirt LBD 2020 avec la mascotte d'Angoulême éborgnée.
Nous sommes un pays libre, démocratique, qui aime l'insolence. Et donc, il y a eu ce travail qui a été fait avec un t-shirt où, en effet, au lieu de BD, il y a LBD avec le L barré. J'ai eu une discussion d'ailleurs ce midi avec Jules. Je suis en désaccord complet avec son approche. Nous ne sommes pas d'accord. Je récuse le terme de violence policière. Je considère qu'il y a de la violence dans la société. Quand des actes condamnables sont faits, les policiers comme les gendarmes doivent être exemplaires. Et à ce moment-là, être sanctionné, enfin poursuivi et sanctionné si leur culpabilité est prouvée. Mais la violence, elle est d'abord dans la société. Et en France, la police comme la gendarmerie sont au service d'un ordre républicain. Ils sont là pour protéger les lois. Donc je ne mets pas ces violences au même niveau. Donc je ne suis pas du tout d'accord avec leur approche.
Je récuse le terme de violence policière. Amélie Mouget, ce n'est pas le même jour, pas la même citation que celle qui sert de titre à ce hors-série de la Revue Dessinée, mais c'est le même propos. Comment cette phrase « ne parlez pas de violence policière » s'est-elle imposée comme titre à ce numéro hors-série ?
Alors oui, c'est une phrase qui date de mars 2019, et puis c'est elle à laquelle on s'est accroché pour développer notre propos, parce que au fil des semaines, au fil des mois, on voyait une contradiction flagrante entre cette position officielle qui était de dire il n'y a pas de violence policière, circuler, il n'y a rien à voir, et puis les reportages, les enquêtes, notamment celles de Mediapart, montrant à la fois les blessures, à la fois les suites ou l'absence de suites qui étaient données aux enquêtes du côté de l'IGPN, et on trouvait ça important de faire la démonstration à partir de cette phrase que si il y avait des violences policières, il était nécessaire d'en parler et de les visibiliser à travers des histoires qu'on raconte, plusieurs histoires qu'on raconte en bande dessinée dans ce numéro.
Et puisqu'on parle du titre et de la couverture, il faut dire un mot sur le dessin qui illustre cette couverture, un dessin d'Yvan Brun sur un fond jaune. On voit un CRS casqué, la matraque au poing, on ne voit pas son visage. Un dessin qui met en avant l'équipement des CRS, la violence, qui déshumanise aussi un peu la figure du policier.
Oui, en fait, cette couverture, elle est forte parce que elle joue sur le contraste entre le geste, le bras levé avec la matraque, et puis les mots qui disent non, ne parlez pas de violence policière. C'est aussi, il y a un propos dans cette couverture qui est de dire, on va aller au-delà de ce discours sur les bavures, les actes individuels, les dérapages, mais essayer de montrer que c'est un problème plus général, plus systémique de maintien de l'ordre, et qu'en effet, comme vous le disiez, c'est une question question d'équipement, c'est une question d'organisation sur le terrain des forces de l'ordre, d'absence de chaîne de responsabilité dans certains cas. Et avec cette couverture, on indique cette intention.
Didier Fassin, puisqu'on parle de couverture, parlons de la couverture de votre livre en bande dessinée, La Force de l'Ordre. Sur la vôtre, on voit un homme en train d'en fouiller un autre. Celui qui est fouillé a une capuche, celui qui fouille a un brassard orange, le brassard de la police. Les deux, là aussi, n'ont pas de visage, on ne voit pas leur visage. Un mot sur ce dessin.
Je crois que la comparaison des deux couvertures permet d'illustrer deux formes de violence policière aujourd'hui. La première, sur la couverture de la revue dessinée, qui montre cette violence physique qui s'exerce dans le cadre de ce qu'on appelle, dans le langage de la police, l'ordre public, ou le maintien de l'ordre, dont, par exemple, le film de Daniel Dufresne, Un pays qui se tient sage, donne des illustrations très, très fortes. Et puis, il y a un deuxième type de violence, qui sont des violences beaucoup plus quotidiennes, beaucoup plus ordinaires, qui relèvent de ce qu'on appelle dans le langage de la police de la sécurité publique et qui est appliquée presque exclusivement dans les quartiers populaires, dans ce qu'on appelle parfois les cités ou d'autres noms. Et je dirais d'ailleurs que dans l'entretien de Assa Traoré dans la revue dessinée, elle a une phrase qui est reprise dans le titre, qui est mourir dans les rues de Paris ou en banlieue n'a pas la même valeur. Et on voit qu'il y a là deux formes qu'elle reconnaît elle-même. Et sur notre couverture, effectivement, nous avons voulu montrer quelque chose, et Jacques Reynal l'a fait de façon magistrale, je crois, quelque chose de tout à fait ordinaire, où la violence ne s'exprime pas par les coups qui sont donnés, mais par l'imposition qui est faite sur un corps qui ne peut rien, qui est obligé de se laisser faire, en l'occurrence de se laisser contrôler et de se laisser fouiller.
Et l'imposition de cet ordre social se fait de façon beaucoup moins spectaculaire, en effet. C'est les brimades, les humiliations, les insultes, ces fouilles au corps répétées. C'était ce qui était véritablement au cœur de votre livre « La force de l'ordre », un livre qui est paru en 2011. Vous aviez suivi pendant 15 mois une BAC, c'est-à-dire une brigade anticriminalité. Vous étiez officiellement dans cette BAC avec l'aval de la hiérarchie policière et vous aviez documenté ça. Et aujourd'hui, vous adaptez ça en bande dessinée. Alors avant de parler de cette adaptation, de cette recréation, un petit mot sur le lecteur de bande dessinée que vous êtes. Est-ce que vous lisez de la bande dessinée?
Oui, je lis, j'en lis beaucoup, et de la bande dessinée plutôt d'ailleurs assez traditionnelle, mais c'est effectivement l'une des raisons qui m'a amené, lorsque la proposition m'en a été faite, à immédiatement voir qu'il y avait là un médium qui pouvait être tout à fait intéressant pour traduire le travail que j'avais réalisé de manière différente et avec d'autres auteurs de talent avec lesquels on a travaillé quand même pendant 4 ans.
Alors, en exergue de votre livre, il y a une phrase d'Edouard Saïd qui est extraite d'un hommage à Joe Sacco, qui est une figure tutélaire dans le reportage en bande dessinée. Je cite cette phrase. Par des artifices que je trouve toujours fascinants de décoder, les bandes dessinées disent ce qui n'aurait pas pu être dit autrement. Est-ce que c'est quelque chose dont vous étiez convaincu avant de l'expérimenter, Didier Fassin ?
J'en étais convaincu, c'est pour ça que je me suis lancé dans cette aventure, alors que moi-même je n'avais jamais eu d'expérience dans la bande dessinée. C'est aussi pour ça que j'avais été séduit par le dessin, le graphisme de Jacques Reynal, et que nous avons pu travailler ensemble, parce qu'il me semblait que il allait y avoir des choses qui pouvaient être alors non seulement dites mais montrées, ce qui supposait tout un retravail à partir non seulement du livre, mais également des notes que j'avais, voire des images qu'il fallait recréer pour essayer d'avoir un travail qui soit réaliste, puisque nous appelons ça une enquête ethnographique, qui est un peu un néologisme.
Avec un tiret.
Avec un tiret, donc, pour justement montrer qu'il y a une partie ethnologique et une partie graphique, et que c'est la combinaison des deux, et donc il a fallu, qui fait qui fait ce qui fait l'intérêt pour nous de ce livre. Et donc, il a fallu retourner aux sources, les miennes et puis celles des lieux dans lesquels j'ai travaillé.
Alors, il y a des images, évidemment, dans ce livre qui frappent immédiatement l'œil, que dans le livre écrit, vous deviez prendre le temps de décrire. Je pense en particulier à ces blasons des unités de brigade anticriminalité, donc ces blasons des BAC de banlieue parisienne. Vous les décriviez dans votre livre, quand on les voit dessinés par Jacques Rénal, mais d'après nature, on ne peut pas s'empêcher d'être choqué. Ça tient plus de l'esthétique des ultras de football, des supporters ultras. Dans un stade, c'est une chose, sur les manches des policiers, voir ces animaux sauvages, ces armes mises en avant, ces poings qui brandissent des éclairs. Ça, c'est une des forces de la bande dessinée, de l'image.
Absolument. Et puis, alors, probablement ne faut-il pas prendre littéralement ces représentations qui sont un peu de l'ordre de la mise en scène, de la performance du travail policier, d'un imaginaire aussi. Mais néanmoins, cet imaginaire est un imaginaire qui peut faire froid dans le dos quand on voit, par exemple, des loups qui sont autour d'une cité ou menaçants, ou bien l'éclair qui tombe sur une cité qui ne peut pas ne pas faire penser aux événements de Clichy-sous-Bois en 2005 et à la mort de ces deux jeunes électrocutés. Il y a toute une symbolique qui est effectivement beaucoup plus forte. D'ailleurs, on l'a reprise sur la quatrième de couverture parce qu'elle nous semblait avoir une force expressive qui est d'ailleurs ce que les policiers eux-mêmes veulent faire.
Oui, parce que cet imaginaire des policiers, cet imaginaire des baqueux, comme on les appelle, ou comme ils s'appellent eux-mêmes, est au cœur de votre enquête. C'est ça que vous vouliez comprendre, c'est ça que vous avez découvert, un imaginaire fait de gangsters américains ou de flics plus ou moins véreux dans les séries américaines, plutôt plus que moins d'ailleurs, un imaginaire d'hostilité, de guerre, tout un vocabulaire. Comment est-ce que on peut traduire tout ça, là encore une fois, en dessin? Quel parti pris est-ce que vous avez eu? Je pense par exemple à la question de vous mettre en scène ou non. J'imagine que vous vous êtes posé cette question. On évoquait Josaco, qui est toujours lui dans ses bandes dessinées. Comment est-ce que vous avez décidé d'opérer pour cette recréation?
Alors, pour ce qui me concerne personnellement, nous avons choisi de me montrer parce que il est certain que cette enquête, elle était faite par un chercheur, et que faire comme s'il n'y avait pas eu de présence personnelle, ça aurait été un petit peu tricher avec le lecteur. Et en même temps, j'avais pas très envie qu'on me voie de face ou qu'on cherche à faire des représentations trop ressemblantes. Et c'est ce que d'ailleurs fait Josaco lui-même avec son graphisme particulier. Et donc, nous sommes convenus de me représenter de dos, pas tout le temps, mais à chaque fois qu'il y avait un dialogue pour qu'on voit que les policiers s'adressent à moi et que moi, éventuellement, je leur réponds, je leur pose des questions.
Une silhouette noire.
Voilà, une silhouette noire dans une sorte d'ombre. Et pour ce que vous dites sur l'imaginaire, effectivement, ce qu'on a essayé de rendre et que je crois peut-être le dessin permet de mieux restituer que le livre écrit, et finalement en moins de pages et simplement en dessin, c'est le décalage qu'il y a entre l'imaginaire policier d'un rythme effréné, d'une efficacité sans pareil d'actions qu'ils ont vues dans les séries, notamment états-uniennes, et puis la réalité. Et nous avons passé beaucoup de temps à essayer de montrer le temps qui passe sans que rien ne se déroule. On est dans la voiture. On parle, on regarde, et à la fin, comme rien ne s'est passé, eh bien, on va aller contrôler des identités, fouiller, et puis brusquer un peu, insulter parfois des jeunes systématiquement dans des cités. Et ce qui veut dire que on va s'intéresser à ces jeunes qui sont de milieux populaires et très souvent d'origine immigrée.
Alors cette question du rythme, c'est évidemment très intéressant. Le rythme graphique n'est pas le même qu'un rythme d'écriture. Et vous disiez, il faut aller plus vite. La Force de l'Ordre, le livre qui est paru en 2011 au Seuil, faisait presque 400 pages. Là, vous nous livrez une bande dessinée qui fait une centaine de pages. Et pourtant, dans la question du rythme, on voit des choses amusantes, par exemple, enfin amusantes ou intéressantes. la scène qui sert de prologue un peu à cette bande dessinée, c'est l'interpellation de trois jeunes qui n'ont rien fait, qui attendent le bus un soir de réveillon et qui se font interpeller. Ça, vous le racontez en quatre pages et demie dans le livre et c'est 12 pages dans la bande dessinée. Avec évidemment, encore une fois, là, ces cases muettes, ce rythme, cet ennui, ce paysage de banlieue. Vous-même, ça vous a sans doute posé question de vous dire, il faut en faire longtemps, il faut installer un rythme, il faut installer une narration.
Oui, certainement, on a choisi cette première scène de l'hypertrophier un petit peu, de façon à en montrer tous les aspects qu'on peut retrouver dans la narration du livre initial. Nous nous sommes donné deux objectifs au départ de l'écriture de ce livre, et c'est en ça que c'est aussi une recréation. C'est premièrement d'être réaliste. Alors bien sûr, on sait tout ce qu'il faut mettre comme guillemets autour du mot réaliste, de même d'ailleurs que dans le livre initial, mais en tout cas de raconter des choses qui ont été vues ou qui ont été racontées de manière à coller à ces faits. Par moments, il y a eu des tentations d'entrer un peu dans des imaginaires policiers, puis on s'est dit non, ça, il faut rester vraiment sur ce qui s'est passé, sur ce qu'on peut raconter. C'était la première chose.
Oui, il n'y a pas, par exemple, de bulle, il n'y a pas de pensée supposée. Il y a des choses qui ont été dites et entendues, c'est tout.
C'est ça. Ou sinon, on n'écrit pas, on peut deviner que peut-être ils pensent, mais on ne le sait pas. Et puis la deuxième, alors ça c'était une contrainte plus forte que nous nous sommes donnée, de ne pas faire de ce livre simplement une série d'anecdotes qui auraient pu être assez saillantes ou au contraire montrer l'ennui, mais d'essayer de rendre compte d'un contexte socio-historique et sociopolitique dans lequel les choses se passaient, sur par exemple comment les policiers sont recrutés, comment ils sont formés, ce que dit à un moment donné le président, le ministre de l'Intérieur, puis le président de la République, de façon à ce que on puisse comprendre, que le lecteur puisse comprendre sans excès de texte, mais par l'image. Donc ça demandait des choix que nous avons fait ensemble, de comprendre le contexte qui permet de comprendre, d'expliquer ce qu'on voit à la fois dans le quotidien et puis lorsqu'il y a des dérapages.
Boulevard Richard le Noir, j'ai rencontré Richard le Blanc. Il était pâle comme l'ivoire et perdait tout son sang. Tire-toi d'ici, tire-toi d'ici. Voilà ce qu'il m'a dit. Les flics viennent de passer, histoire de se réchauffer. Il a monté à saisonner.
Juliette Gréco, À la belle étoile, un texte de Jacques Prévert pour une chanson de 1951 qui montre que cette question des violences policières n'est pas neuve. Bien sûr, on le savait, elle est sans doute aussi vieille que la police, aussi vieille que le monde, mais elle se pose à chaque époque à frais nouveaux. Et déjà entre 2005, le moment de votre enquête, Didier Fassin, et aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé. On parlait de deux sortes de violences en début d'émission, mais il y a des choses qui ont changé. La première chose, c'est ce mouvement des Gilets jaunes qui a peut-être montré que cette violence aujourd'hui s'exerce sur d'autres personnes que ces jeunes des quartiers populaires. Il faut dire tout ça avec des guillemets. Cette question des gilets jaunes, et puis la seconde chose qui a changé, c'est l'essor des caméras, des smartphones, qui fait qu'aujourd'hui, alors qu'autrefois, même en 2005, il y avait très peu d'images, aujourd'hui on est saturé d'images, abreuvé d'images. Alors Amélie Mouget, souvent la revue dessinée, nous présente des sujets qui sont rares, que vous êtes allé débusquer, que vous avez documenté longuement et patiemment, et nous ouvre des horizons et des questions à nous, lecteurs, dont on n'est pas forcément au courant. Là, comment est-ce que vous avez fait pour parler en bande dessinée de ce sujet qui est tellement abreuvé ou saturé d'images ?
Alors, il y avait à la fois énormément d'images et la nécessité, de notre point de vue, de mettre en perspective et de recontextualiser, de reprendre le fil d'histoires qu'on pouvait lire dans la presse, mais de manière assez fragmentée. On a notamment l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Maria et qui a été victime de violence avec une cicatrice de 18 cm qui a été rouée de coups au sol à Marseille. Cette histoire, on a pu la lire dans Mediapart. Chaque semaine, un nouvel article était publié pour éclairer une facette de cette histoire. Ce travail était nécessaire, était important. En même temps, j'ai l'impression que quand on le traduit en bande dessinée, quand on utilise ce langage qui est celui de la bande dessinée, il nous permet de mettre bout à bout différents éléments de l'histoire. Le moment de l'assaut contre cette jeune femme qui sortait du travail un jour de manifestation, la question de l'enquête, des différentes plaintes qu'elle va essayer du signalement à l'IGPN, mais aussi des plaintes qu'elle va tenter de déposer, on va essayer de l'en dissuader, puis la fabrique de l'impunité en quelque sorte, la manière dont tout va être fait pour rendre impossible l'identification des brigades, des unités de marche qui étaient présentes sur la manifestation ce jour-là, qui ont commis cet acte. Et donc, c'était des choses qui avaient déjà été publiées. On entendait la voix de Maria sur Mediapart. Mais le fait de mettre cette histoire en bande dessinée, ça nous permet de raconter une seule et même histoire avec toutes ces facettes, de parler du recours à ces différentes brigades qui ne sont pas formées au maintien de l'ordre en manifestation, de parler des liens parfois surprenants entre la hiérarchie de certaines unités et l'IGPN, avec une familiarité très forte dans les échanges de mails. On suit un cas particulier, mais qui en dit beaucoup plus que le fait divers qu'il pourrait être. Et la bande dessinée nous permet d'ajouter une dimension sensible. On voit cette jeune femme qui sort du travail, qui retrouve son compagnon, qui se demande ce qu'elle va manger le soir. Qui n'est pas une manifestante. Après, on a d'autres histoires qui impliquent des manifestants et c'est pas forcément différent. La dénonciation est là également. Mais là, on a une empathie, une sympathie de numéros ou de noms lancés au hasard d'un article. On a un visage et on a quelqu'un à qui on va s'attacher très vite en 3 pages et puis dont on va voir la vie basculer en 1 page. Et je pense que la force de la bande dessinée, elle est là aussi, dans la sensibilité qu'elle peut apporter, parce que c'est des vies brisées ce qu'on raconte dans ce numéro, mais c'est pas uniquement un étalage de vies brisées, c'est une volonté de décrypter, de donner des clés de compréhension quand on fait défiler son fil Twitter avec le compte de David Dufresne et ses signalements à l'eau Place Beauvau, où on est effaré de voir ses mains arrachées, ces personnes éborgnées. Et nous, on avait envie d'utiliser la bande dessinée comme outil de décryptage pour essayer d'y comprendre quelque chose et se dire, est-ce qu'on a un problème? Est-ce qu'il y a un problème avec la police en France? Et si oui, comment on peut l'expliquer et comment on peut justement faire ce travail de mise en perspective? Donc l'idée, c'est évidemment d'utiliser l'image et le dessin pour montrer ces images, mais aussi de mettre en perspective. Et c'est pour ça qu'on a dans ce numéro plusieurs angles. On va aller sur la question de l'armement, on va aller sur la question de la police des polices, donc l'IGPN, on va aller sur la manière dont sont valorisés peut-être les commissaires qui reçoivent des médailles alors qu'ils sont intervenus dans des situations problématiques comme l'affaire Geneviève Le Guay. On met différents coups de projecteur et on fait le pari que mis bout à bout et lié avec des entretiens et avec des réflexions de chercheurs et d'acteurs de cette question, on va réussir à dégager des éléments d'analyse. On n'est jamais exhaustif quand on traite de ces sujets-là, mais c'était le pari qu'on a fait avec ce numéro. Et puis, dans certains cas, alors le sujet, c'est pas intuitif au premier abord, mais la bande dessinée permet l'humour aussi. Et c'est notamment le cas avec un sujet de Marion Montaigne, qui est une dessinatrice qui nous emmène voir à quoi ressemblera l'équipement du policier du futur.
Au Salon Millipol.
Et dans un numéro sur les violences policières, on rit un peu.
Et c'est vrai qu'avec Marion Montaigne, on rit. Et pour reprendre l'exemple de l'histoire de Maria, donc écrite par la journaliste Pascale Pascariello et dessinée par Thierry Chavant, vous avez évoqué le mot sensibilité. La bande dessinée permet d'apporter une certaine sensibilité. Là, avec quelle force et le dessin de Thierry Chavant est un dessin sensible, quelque chose qui, vraiment dans son trait, il y a quelque chose qui tremble un peu. Ce n'est pas du tout le même dessin que celui de Benjamin Adam pour des bandes dessinées plus explicatives ou plus scientifiques d'une certaine façon. Comment est-ce que ces couples de dessinateurs et de journalistes se créent pour ce numéro, mais à la revue dessinée aussi en général?
En fait, on va choisir le style graphique et la personne qui dessine en fonction de ce qu'on a envie de raconter et de ce qu'on veut mettre en lumière.
C'est vous ou c'est le journaliste les journalistes connaissent les dessinateurs
On forme les binômes. À partir des sujets, on va aller chercher et à partir des centres d'intérêt aussi. Qu'est-ce qui prend aux tripes? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de passer des mois sur des planches? Parce que la bande dessinée est un art lent. Et donc on a besoin aussi que les auteurs s'emparent de leur sujet. On a besoin que ce soit Thierry Chavant ou Benjamin Adam ou Marion Montaigne, que leur sujet les transporte vraiment. Donc il y a la sensibilité des auteurs. Et puis là, on est allé chercher un style graphique très réaliste pour l'histoire de Maria. Alors Maria n'a pas ce visage-là en réalité. Elle a été anonymisée pour la protéger. Ce visage-là, c'est celui de la nièce de Thierry Chavant, pour l'anecdote, mais qui en fait ressemble beaucoup à Maria, selon Pascal Pascariello. Mais on est allé chercher ce style graphique parce qu'on avait envie d'être au plus près des événements et d'avoir une bande dessinée qui raconte. Parfois, on a besoin d'une bande dessinée qui décrypte ou qui retrace les différents rebondissements d'une affaire. C'est le cas de Benjamin Adam sur l'affaire Geneviève Legay, où là, ce qui était important pour nous, c'est de mettre bout à bout des événements très rapprochés qui se répondent les uns les autres et qui permettent de comprendre en quoi cette affaire était scandaleuse en une dizaine de pages. Et là, le dessin de Benjamin Adam, qui est beaucoup moins réaliste, est très efficace pour ce genre de choses.
Vous avez utilisé tout à l'heure le mot dénoncer. C'était le but de ce partenariat avec Mediapart, de ce numéro de la revue dessinée. Est-ce que vous diriez que qu'il s'agit d'un journalisme militant, d'un journalisme politique?
Alors c'est un choix que de traiter de ce sujet-là, c'est un parti pris fort, c'est un choix qui résulte d'un sentiment de nécessité, de visibiliser, peut-être d'aller nourrir la colère parfois à travers des récits comme celui-ci, mais aussi la compréhension et de notamment on a un sujet sur le flashball qui est maintenant le LBD 40 qui est une arme dont les associations demandent depuis des années la suppression parce qu'elle mutile. Comprendre d'où vient cette arme, quels sont les problèmes, quels sont les enjeux. Il me semblait que c'était nécessaire de mettre tous ces éléments en résonance. Et oui, c'est un parti pris fort. Et puis c'est traité avec toute la subjectivité du dessin, mais toute la déontologie et l'éthique du journalisme d'investigation.
Et on apprend en effet beaucoup de choses, en particulier, enfin, notamment sur cette histoire du LBD, en effet. Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle le titre de vos ouvrages, Ne parlez pas de violence policière, le hors-série de la revue dessinée, en partenariat avec Mediapart, qui est disponible en librairie et dans les points relais. Et La force de l'ordre, une enquête ethnographique de Didier Fassin, Frédéric de Baumy et Jacques Rénal, coédité par Le Seuil et Delcourt. Toutes les références de ces livres sont bien sûr sur la page du Rayon BD sur franceculture.fr. Et on se quitte avec Camélia Jordana qui chante pendant une manifestation contre les violences policières, un air de gospel qui est devenu un hymne aux États-Unis depuis la mort de George Floyd, puisque bien sûr, cette question des violences policières est une question qui se pose partout dans le monde. Les États-Unis, il en sera question la semaine prochaine dans le Rayon BD, puisqu'à quelques jours de l'élection présidentielle états-unienne, nous nous demanderons pour qui voteront les super-héros cette année. Le Rayon BD était comme chaque semaine préparé par Pascaline Bonnet, réalisé par Alexandre Manzanares, et nous étions aujourd'hui accompagnés à la technique par Baptiste Lénard. Dans quelques instants, vous retrouvez Charles Danzig pour Personnage en personne.
Brothers, on Baltimore Bay, our eyes are closed. There's a soul and we pray, fellows. The lazy night is coming to us. Sisters, we'll be hurt or shot, they won't have the choice. Clouds are getting lower this time. Don't worry about our sacred blood. Revolution has come. Time to pick up the gun. Revolution has come. Time to pick up the gun. Revolution has come.
time to pick up the gun. Revolution has come. Come on! Time to pick up the gun. Eh! Revolution has come. Eh! Time to pick up the gun. All day long we will sing and cry. We're gonna walk downtown again. All day long we will sing and cry. We're gonna walk downtown again. My head is down, 'cause I'm so afraid. And we are singing, singing for our lives. Hey! We are gentle and angry people, and we are singing.